dans le 20e arrondissement. Serge Djeroyo, Arthur H, Amazir Kateb se succéderont sur la scène de la maroquinerie le lundi 3 juillet pour un concert de soutien à Julian Assange. Julian Assange est le fondateur de Wikileaks. En 2010, grâce aux documents transmis par la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, Wikileaks révèle notamment les crimes de guerre perpétrés par les États-Unis et leurs alliés durant les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Depuis, Julian Assange est la cible d'une persécution ininterrompue. Détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, il est sous la menace d'une extradition vers les États-Unis, où il encourt 175 ans de prison. Le gouvernement et la justice britannique restent sourds au soutien que lui apporte un grand nombre de personnalités. De nombreuses organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse ont également réclamé l'abandon des poursuites contre Julian Assange, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des journalistes, Reporters sans frontières. L'appel de Paris pour Julian Assange demande la libération immédiate du journaliste australien et l'obtention de l'asile politique en France. Il a été signé par 50 organisations et médias. La situation est urgente. Le 6 juin dernier, l'appel contre son jugement d'extradition a été rejeté par la Haute Cour britannique. Julian Assange est menacé à brève échéance. Ce qui se joue ici, c'est non seulement la vie d'un homme, mais c'est la liberté d'informer et d'être informé. Défendre Julian Assange aujourd'hui, c'est défendre le travail et les droits des journalistes et des lanceurs d'alerte de demain. Privé de liberté depuis bientôt 13 ans, Julian Assange aura 52 ans le 3 juillet. Ce concert de soutien doit être une étape marquante de la mobilisation de l'opinion publique et des médias pour Julian Assange et ce qu'il symbolise. Serge Djeroyo, Arthur H, Amazir Kateb se succéderont sur la scène de la maroquinerie le lundi 3 juillet pour un concert de soutien à Julian Assange.
J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver, pendant que le vulgaire était tout emmouflé. Je soufflais sur mes mains, à son cul, à son nez. Latipax et Bourgeon sortaient m'en jouer un air. Latipax et Bourgeon sortaient m'en jouer un air. Le printemps, ça s'invente et ça se fout en tôle. Le printemps, c'est ma mine avec ses airs de chien qui vient tout ébahi me montrer tout son bien. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Et oui, c'est ça, monsieur, le printemps des poètes. Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons. Un quart d'été, un quart d'automne et des chansons. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. On va faire des pique-niques du côté des ballots. On va se mettre au vert en croyant aux histoires. Et l'on se sent mourir au bord d'une guitare. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Seul qu'il faut de désir aux heures de l'ennui. Et ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses. ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit, l'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. Jamais ne vient l'avril dans le fond de mon cœur, cet éternel hiver qui bat comme une caisse, qu'on clouerait sans répit depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs, a décidé d'aller se faire teindre ailleurs.
Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire ce qui se passera la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons des filles d'Olfa de Kauter Benania, qui sort le 5 juillet, de Louise de Mathias Leuthart, de Tinnitus de Gregorio Graciosi. Nous parlerons également d'un livre avec un entretien avec Denisa Bancheva sur Alain Delon, Amour et mémoire, publié à La Martinière. Et puis une lecture avec Serge Gerouillot qui viendra dans les chroniques pour lire un texte. Et puis nous parlerons certainement encore donc de ce concert de soutien à Julian Assange. Très très bonne semaine et surtout, comme d'habitude, eh bien, tenez bon. Il y a un souci, mais vous tenez bon quand même. Il n'y a pas de raison. Vous êtes sur Radio Libertaire. Et puis, je vois évidemment Nicolas de Soutseine qui est dans les starting blocks. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Il y a un petit problème technique, mais on est là avec vous. On ne vous abandonne pas. Vas-y, Nicolas. Vas-y, démarre.
Ça y est.
Très très bonne semaine.
Anna voulait absolument assister au concert de son idole, le célèbre Krourk, qui passait ce soir-là au casino de Noyon.
Je vais aller voir Krourk.
Hélas, toutes les places étaient vendues. Notre héroïne gémissait.
Je vais aller voir Krourk.
Se lamentait, trépignait, larmoyait, pleurait, sanglotait.
Je vais aller voir Krourk.
Excédée, la mère téléphona au casino. Enfin, malheureusement, c'était complet. Alors la mère descendit chez son marchand de journaux et elle revint avec une belle affiche de Krourk qu'elle déposa dans la chambre d'Anna avant d'aller passer la soirée chez son ami Bob.
Tu l'as en image, là, sale gamine. Salut. Tu l'as en image, là, sale gamine. Salut.
En image, c'était la photo de Krourk.
Et voilà, c'était un petit palindrome de Gérard Durand pour ouvrir ce magazine. Magazine où l'on a pu constater cette semaine la vérification du principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide reçoit une aide et un battage médiatique proportionnel à ses propres finances. On l'a vérifié cette semaine avec un bateau de migrants qui a échoué en Méditerranée avec quelques centaines de victimes, représentant une poussière de PIB sûrement selon certains, et un sous-marin avec quelques milliardaires qui ont coulé au fond de l'eau et qui a reçu l'aide de la marine pour essayer de les repêcher. On constatera quand même que le responsable de ce sous-marin a eu la bonté de monter dans le sous-marin avec ses victimes, tandis que les passeurs qui se font de l'argent avec ceux qui tentent désespérément de traverser la Méditerranée pour venir chez nous, les passeurs, eux, ne sont pas sur les coquilles de noix qu'ils envoient traverser la Méditerranée. Sinon, entraînez-vous bientôt aussi, car les choses ont différentes valeurs. Il y a un an, on s'apprêtait à accueillir des Ukrainiens fuyant la guerre. Maintenant, il va falloir s'apprêter à accueillir des Russes fuyant la guerre, eux aussi, car il n'y a pas des gentils Ukrainiens, des méchants Russes, comme l'imaginent certains, mais il y a des civils pris entre l'enclume et le marteau. Quelques petits « je me souviens » pour ouvrir ce magazine. Je me souviens d'avoir bénéficié dans ma vie d'une dizaine d'années où j'ai pu lécher mon assiette à la fin des repas à la maison, en solitaire pendant ces 10 ans, sans subir un regard réprobateur. Entre la période où c'était mon père qui me disait « mon fils, ça ne se fait pas », puis celle où mes enfants me disaient « papa, ça ne se fait pas ». Je me souviens que Jean-Luc, le manchard du banc en face du métro, m'avait dit « on marche beaucoup quand on n'a nulle part où aller ». Je me souviens que Driss avait montré qu'avec son ordinateur installé derrière le comptoir sur lequel il avait transféré le contenu de cassettes et même de disques CD, il pouvait diffuser de la musique ou des chansons dans son restaurant sans avoir à se brancher sur une quelconque radio. Il avait donc choisi des disques des copains, Alain Orange, Louis Capard, Bernard Lavillier, Ferré et pas mal d'autres. Je me souviens de Richard m'expliquant, dès que l'ascenseur a fonctionné, je suis allé m'acheter 30 litres d'eau, 5 packs. Ben j'avais raison, 3 jours après, l'ascenseur retombait en panne. Je me souviens qu'il était quasiment impossible de trouver un vêtement pour Marie sans un quelconque motif Hello Kitty dessus ou tout autre personnage approchant. Je me souviens des chevaux de Camargue, crinière au vent, courant de front avec l'eau qui jaillissait, soulevée par leurs sabots et leurs jambes, le tout sur un calendrier des postes, sur un puzzle, sur un poster, sur des cartes postales. Je me souviens de la gare des Michards, je me souviens des Lavis, je me souviens du commissaire Écagnac, du Grévis, du Roucher et Combruse, des Vidal Lablache, là c'était un seul nom, du Bled, du Bécherel et du Mallet et Isaac. Et je me souviens d'ailleurs que Georges Perec se souvenait du Mallet et Isaac, dans ce que je me souviens. Je me souviens que des quelques villes que nous avons fait visiter à Marie et François quand ils étaient tout petits enfants, ils n'ont retenu aucun monument, aucun paysage ou autre lieu indiqué dans les guides, mais juste le petit square près de la gare où ils ont joué au toboggan en attendant le retour du train, ou la barrière qui grinçait devant le musée quand ils montaient dessus. Je me souviens que ma sœur pleurait toujours en me lisant la Chauvrette rose dans la collection du père Castor. Je me souviens d'une manifestation en 84 où les premiers précaires avaient jeté des biscuits apéritifs à la tête de Laurent Fabius quand il avait mis en place les TUC, premier modèle de contrat dit d'insertion qui devait durer quelques années seulement. Je me souviens que je buvais un grand bol d'eau vomaltine avant de partir au collège chaque matin, alors même que j'ai totalement oublié le goût de l'eau vomaltine. Je me souviens du Tamiflu, mais je ne me souviens pas qu'on m'ait expliqué un jour comment les stocks périmés furent liquidés. Je me souviens que mon père avait une étagère entière de sa bibliothèque, dans l'armoire où il avait enfermé son tourne-disque avec les enceintes en portes ouvertes pour profiter de la stéréo. Il y avait une étagère entière où tous les livres ou presque avaient le même titre, « Ce que je crois », avec de multiples auteurs différents. Je me souviens des vins du Postillon, pas folle la guêpe, de Gévéor, le vin qu'on aime, du Kiravi et des vins des Rochers. J'en ai gardé les publicités dans les yeux et les oreilles, mais je n'y ai jamais goûté, sauf peut-être à la pizzeria près de mon travail dans les années 80, à 3 francs le verre.
Changer en amour notre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour-là, Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du coche, où elles sont émoussées dans le bout. Les flèches courtoises qu'il nous décoche, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Consacrant à d'autres imbéciles, il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête sur l'herbe tendre. On s'est roulé, mais vous, vous avez perdu la vertu, pas la tête. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Si vous m'avez donné de licence, le cœur hélas n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite, elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois, tes fleurettes, jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'eus pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout.
Radio Libertaire 89,4 MHz, le temps de cette chanson s'est installé dans le studio et donc, autour de la table, j'aperçois 4 têtes, bientôt 5. Evelyne, je te laisse faire les présentations.
Alors, aujourd'hui, ça va être un dessous de scène assez éclectique. Hein. Donc, il y a Anne Delalleux,
bonjour,
pour ses chroniques théâtrales. Bonjour. Dominique Artero, qui est bien connu ici dans Dessous de scène, tu es venu plusieurs fois.
Oui, mon nom d'artiste est Domi l'Adoré.
Oh zut, voilà. Tu me chambres grave. Chaque fois.
Bonjour, bonjour.
Domi
l'Adoré.
Domi, ah oui, ça veut dire Domi l'Adoré.
Bah, voilà.
Voilà. Voilà, d'accord. Bon. Alors, toi, t'es bien connu déjà, Domi l'Adoré. Mais les gens, ils te connaissent. Avant, ils te connaissaient sous le nom de Dominique Artero.
Oui, quand j'étais tout petit.
Ah, d'accord. Bon, très bien. Ça fait. Tu fais la musique depuis l'âge de 17 ans et tu n'es pas tout jeune.
Non, c'est vrai. Bon. J'avoue.
Mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, tu ne fais pas vieux non plus. Hein, ça va.
Entre deux, quoi.
Et Caroline Roucoule.
Bonjour. Bonjour à tous.
Qui m'a contactée parce que on s'était rencontrés lors de la présentation d'un spectacle.
Oui.
Il y a 12-13 ans. Hein,
Oui, au moins.
C'était comment déjà le spectacle s'appelait ?
Le jardinier de l'armée rouge.
Ah voilà,
scène
c'était
de Bruno Bernardin.
Sur l'autisme.
Tout
ouais.
à fait.
Voilà, exactement. Et tu t'es souvenu de moi, je ne sais pas comment, mais enfin tu t'en es souvenu. Et comme tu viens d'écrire un livre qui s'appelle Le Ruban.
Oui.
C'est un joli titre d'ailleurs. Et tu as pensé à moi comme ça, en te disant, ben, tiens, ce serait bien si on pouvait parler de ce livre qui te tient très à cœur, parce que c'est ton premier livre.
Tout à fait, c'est mon premier livre, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour en parler.
Moi, tu me disais que tu avais mis 5 ans à l'écrire.
Oui. Il a eu plusieurs versions, il y a eu 7 versions en tout, et puis c'est un livre voilà, qui m'a demandé du temps, parce qu'il fallait un vrai temps d'élaboration avant de pouvoir finalement décider d'en faire une sorte de conte, voilà, un petit conte philosophique.
Alors, moi je l'ai lu 2 fois d'ailleurs, hein. Mm-hmm. Je l'ai lu une première fois, j'ai des impressions que j'ai notées sur un bout de papier, enfin, voilà. Et puis je l'ai relu encore une autre fois. En fait, c'est une plongée, moi j'ai trouvé que c'était de facture très très poétique.
Oui.
Et écoute, je te laisse faire le résumé de ce livre. Bon, alors, pour te présenter, tu as 2 casquettes, ou 3, 4, enfin, tu en as plusieurs. Tu es psychologue keynésienne.
Oui.
Tu gagnes ta vie comme ça. Bon, c'est très bien. J'imagine que tu aimes ton métier.
Oui, énormément. Oui, je suis psychologue keynésienne. C'est mon métier, effectivement. Et oui, j'aime beaucoup ce métier parce que ça permet de rencontrer une population extrêmement diverse, c'est des rencontres riches à chaque fois, et puis voilà, d'apporter comme on peut son soutien. Donc oui, c'est mon métier, et à côté de ça, j'explore différentes formes de création, et la danse, c'était un de mes premiers amours. Il y a eu ensuite le théâtre, et puis ensuite la pratique du kyudo, le tir à l'arc japonais. Et aujourd'hui, bah oui, j'ai décidé de vous présenter ce livre parce que voilà, c'était important pour moi aussi de clore quelque chose, et j'avais besoin de voilà qu'il soit que tous ces écrits finalement qui étaient là depuis quelques années prennent forme, et donc ça m'a pris du temps pour le rédiger. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Hello Édition qui m'a aidé pour beaucoup porter pour que ce projet aboutisse. Donc, j'en profite pour les remercier. Voilà.
Oui, parce que aussi, c'est vrai, quand on écrit un livre, alors il peut y avoir des rebondissements. Moi, je sais que pour celui que j'ai écrit là récemment, il y aura une mise à jour. Mais en principe, alors moi, je me disais, bon, j'écris le livre, allez, oust, maintenant, n'en parlons plus. Mais. Alors, c'est peut-être une libération aussi. Est-ce qu'on n'écrit pas en se disant, bon, j'avais ça en moi et j'en ai assez de l'avoir en moi. Je me dis, bon, maintenant, si je le mets hors de moi, j'ai plus besoin de m'en préoccuper. Après, ça fera sa vie tout seul, quelque part. Je veux dire, ça va voyager. Et c'est ça qui est super avec la lecture. C'est que, moi, j'y crois. Hein. Je crois que. Alors, c'est Tim Lazer qui disait ça. Il disait qu'il y avait des fantômes dans les livres. Je crois que les gens qui ont écrit, ils sont dans les livres. Ils sont à l'intérieur, petit peu. Mm-hmm. Enfin, je ne dis pas en chair et en os, hein, mais je veux dire, il y a. Moi, je ressens ça. On peut avoir un dialogue avec la personne dont on lit le livre, je pense. Mais enfin, évidemment... Il faut le ressentir, il faut en avoir envie, mais moi je trouve qu'on, quand on lit un livre qu'on aime, c'est pareil avec Rimbaud, avec Verlaine ou la poésie, j'ai l'impression que la personne elle est là à côté. Enfin, l'auteur est là. C'est peut-être tort, hein, je ne sais pas. Hein, je le vis comme ça. Bref. Et donc, est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre, alors c'est un conte, ça a la forme d'un conte, hein, parce qu'à un moment donné, Et tu dis. Alors, c'est la première fois que je te. Enfin, c'est la deuxième fois que je te rencontre. Alors, je te tutoie.
Oh oui.
C'est vrai que c'est un peu rapide, hein, mais enfin, c'est pas grave.
C'est bon, pas grave.
Voilà. Assez rapidement, justement, dans ce livre, il est question de. Il était une fois. Voilà. Alors, en fait, ce quand on parcourt tout le livre, qu'on va jusqu'au bout, on se rend compte que ce « Il était une fois » va nous parler de quelque chose qui est réellement vécu, en fait. Bon, ça passe par la légende, le conte, mais il est question d'une histoire vraie, de quelque chose de vécu, et qui concerne Caroline. Parce que il y a une héroïne l'héroïne elle s'appelle Caroline et il se trouve que l'auteur s'appelle Caroline.
Exactement. Et oui, il fallait qu'il y ait ce point de rencontre parce que oui, c'est une partie, c'est inspiré de mes étapes de vie, mais en même temps, pourquoi j'ai décidé de le mettre sous la forme d'un conte parce que ce dont je voulais parler. Voilà, traite de sujets qui peuvent parfois nous toucher à différents niveaux. Ça traite de rencontres, de rencontres parfois passionnées qu'on peut faire dans une existence, d'épreuves que l'on peut avoir aussi. Et je me disais, il faut que j'arrive à toucher chaque lecteur là où lui se reconnaîtra. Moi, je dis que c'est un livre à tiroir. Et on peut parfois se dire bah tiens je vis où j'ai vécu la même chose et c'est aussi pour peut-être parfois comme ça pour donner des sortes de petits axes de réflexion, des axes d'éclaircissement voire d'apaisement et qu'il voilà, en tout cas moi c'était comme tu dis Evelyne un livre nécessaire. Et pourquoi il s'appelle Le Ruban pour toute la symbolique qui est racontée dans ce livre, mais effectivement c'est une histoire d'amour.
Moi ça m'a fait un peu penser, bon c'est pas exactement ça, mais ça m'a fait penser un peu à Orphée et Eurydice, hein.
Oui,
parce que c'est l'histoire quand même d'une histoire d'amour qui a été rompue. Et l'héroïne, elle part en quête de son ami dont elle a perdu la trace du jour au lendemain.
Voilà.
Et ouais. c'est cette quête qui est racontée dans le livre. Voilà. Mais de façon très, très poétique. Très poétique. Et moi, j'ai l'impression que parce que c'est une grande émotion. Et le fait de lui donner la forme du conte, ça permet de supporter l'émotion. C'est moins plombant pour le lecteur. Enfin, je veux dire, parfois l'émotion, elle est trop forte, quoi. Je veux dire. Et là, avec la forme du conte, c'est plus, ça garde un côté léger, quand même. Et c'est une façon de transcender. Alors voilà, le chagrin et le deuil.
Hein. Exactement.
Et c'est une histoire de transcender vraiment pour que ce qui a été une épreuve devienne en fait une richesse finalement.
Voilà, et c'est tout à fait ça. Et que voilà, l'idée de le poser avec une forme poétique ou sous la forme d'un conte, il faut que ça puisse être encore une fois presque universel comme langage et il n'était pas question d'aller raconter quelque chose qui colle de trop près à la réalité, mais peut-être d'y rajouter j'aime bien le terme de voile, un voile poétique ou un voile de l'imaginaire, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose qui parfois paraît brutal ou brut, de rajouter quelque chose qui adoucit
et oui,
voilà,
oui, c'est ça. En même temps sur la fin surtout vers la page 46-47 oui c'est ça, parfois j'ai l'impression comme c'est vraiment poétique comme langage, est-ce que tu t'es pas laissé aller sans mettre justement l'analyse psychologique, tu t'es pas laissé aller à écrire sans te censurer en disant non il faut pas le dire comme ça, est-ce qu'il y a pas tu as fait un lâcher prise au niveau de l'écriture.
Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que je voulais pas faire un livre sur la psychologie. Ouais, ouais. Certainement pas. Je voulais justement ouvrir d'autres portes, laisser l'espace pour d'autres univers. Et il n'était absolument pas question de faire un livre sur la psychologie ni le développement personnel. Je voulais raconter une histoire qui, en partie, se croise avec la mienne. C'est-à-dire que mon histoire s'est tissée avec l'histoire de ce conte. Finalement, ça s'est raconté et ça s'est écrit presque malgré moi.
T'avais besoin que ta propre histoire s'exporte dans un conte, quelque part. Ça devient un conte.
Voilà. Ouais. Bah oui,
ça l'embellit du conte. Quand ça devient un conte, ça devient quelque chose de qui s'ouvre. C'est bien comme idée.
Et c'était pas comme ça au départ, hein, mais au fur et à mesure d'écrire, finalement ce conte là s'est emparé de moi, et finalement je l'ai tissé avec mon histoire. Donc c'est pas un livre de 250 pages, c'est un petit conte.
C'est dense, c'est très dense, hein. Alors, pour que les lecteurs, pour les auditeurs se rendent compte un petit peu de... déjà, il y a ce qui est dit à la première page, hein, ça raconte bien. Est-ce que tu aurais envie de lire la page 5, 6 à 7, par exemple?
Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que tu peux la lire aussi, hein,
Guy? Oui, mais enfin bon.
Alors, je vais vous lire les premières pages. Hein. Je vais vous raconter une histoire singulière. Peut-être avez-vous ouvert ce livre par hasard, mais maintenant qu'il se trouve dans le creux de vos mains, prenez-en grand soin. Ce livre est une histoire d'enfance. Vous savez, cet enfant que vous fûtes un jour. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas si loin, peut-être même à seulement quelques lieues d'ici. Pour certains d'entre vous, l'enfance est un pays, une île lointaine, pour d'autres un vague souvenir. Pourtant, chacun y a vécu ne serait-ce qu'un instant. Il y en a même qui y vivent encore. L'enfance est un rivage, une planète à conquérir, un voyage qui est parfois le chemin de toute une vie. Qu'y a-t-il de plus près de soi que les heures innocentes où l'on se cache au fond des bois pour voir apparaître la magicienne et ses mille fées, le mage avec son grand chapeau et sa cape mystérieuse, le monstre un peu farouche mais au fond de lui si gentil, et l'elfe du jardin qui vient vous chatouiller le nez dans l'aube perlée et la rosée du matin? Qu'avez-vous fait de vos souvenirs d'enfance? Sont-ils repliés au fond d'une armoire ou perdus dans l'espace de votre cœur? Les avez-vous refoulés au point d'en perdre la mémoire, sacrifiant ainsi les plus belles années de votre vie? Auriez-vous décidé de continuer le chemin pour les retrouver, de réécrire l'histoire faute d'avoir eu la chance de goûter au parfum sucré de l'enfance? L'enfance porte aussi sa part de tristesse. Il y a parfois des peines d'adulte dans le cœur d'un enfant. On peut y trouver toutes les peines du monde, et personne ne peut les comprendre. Comment expliquer avec des mots d'adulte ce que l'on ressent lorsqu'on est un enfant, lorsque l'on n'a pas appris à l'école tous les mots du vocabulaire? C'est ici que commence cette histoire. Elle est écrite avec des mots d'adulte et le cœur d'un enfant.
Oui, c'est tout à fait ça. Hein, oui, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai pas d'illustration musicale, mais est-ce que tu penses, Dominique, parmi tes chansons, il n'y en a pas une qui pourrait illustrer le...
Ça, le conte, ce conte-là. On va dire le numéro 2 de tes yeux des diamants.
De tes yeux des diamants, tu as 20 ans. Aime la vie, aime le vent. Pour qu'à cent ans, tous tes printemps soient dans le vent. À l'infini, dis toujours oui à l'amour qui fait de tes yeux des diamants, de tes yeux des diamants. ton temps.
Prends tout ton temps.
Être prêt, c'est ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Évidemment.
Évidemment.
N'oublie pas où est le chemin dans la.
Oui, mais de toute façon, c'est un conte. Alors, je crois, j'ai cru comprendre, parce que c'est vrai, ça se relit plusieurs fois, ce livre. À un moment donné, je crois qu'il y a des fées, il y a des esprits positifs, comme des fées, et il y a des esprits malfaisants. Alors, il y a les criminels, les insomnies criminelles.
Oui, c'est ça, les insomnies criminelles.
Alors, qu'est-ce qu'elles vous... Elles sont tellement mauvaises, c'est à cause d'elles que... Que l'amoureux de Caroline a disparu. C'est à cause de certains esprits. Alors, c'est des femmes hein, là-dedans. Enfin, je ne sais pas. C'est des insomnies. Alors, c'est féminin. Criminel. Alors, il y a l'histoire de. Effectivement, il y a les forces du bien, les forces du mal. Bon, ben, ça, c'est. On en a toujours. C'est toujours dans les mythes et dans les légendes. Hein, il y a toujours ça. Et donc, moi, ça m'a frappé quand même, parce que concrètement, alors, ces insomnies criminelles, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce
oui, parce que
c'est
la première fois que j'entends parler de... Oui. Alors, c'est comme des sorcières, quoi, parce que tout à l'heure, on va recevoir Macbeth. Il y a trois sorcières là-dedans. Dans Macbeth, il y a trois sorcières qui prédisent à Macbeth « Mais tu vas devenir roi, tu vas avoir beaucoup de pouvoir. » Et Macbeth, il est tellement influençable, il le croit. Il croit que il y a des, on lui a prédit qu'il allait devenir roi et qu'il fallait qu'il fasse tout ce qu'il faut pour devenir roi. Et il va tuer le roi qui de façon affreuse. Mais voilà, et c'est toute l'histoire de Macbeth. Et ce sont des sorcières, hein, des forces du mal. Et dans ce livre, alors c'est le hasard de la programmation. Il est question dans le livre Le Ruban de ces vilaines sorcières là, les insomnies criminelles, qui seraient responsables de la séparation entre les deux enfants, parce que à l'origine ce sont deux enfants qui se sont promis mariage, etc. Lui se présente comme il rêve qu'il est un samouraï, qu'il est un prince charmant. Elle aussi elle rêve qu'elle est une princesse charmante. Et puis ils sont séparés par la vie, enfin ils sont séparés, voilà. Et elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Et au fur et à mesure de sa quête, elle va rencontrer un maître, un sage, qui va lui expliquer que c'est à cause de... Enfin, je résume, hein, ce sera à cause de ces fameuses insomnies criminelles ou ces sorcières qui ont fait que... voilà, ce sont des forces du mal, il faut les vaincre. Mais comment les vaincre? Enfin, il y a peut-être un brassage de contes, de légendes, de... Il y a du fantastique, enfin, de l'imaginaire, ouais. Alors, comment on arrive jusque-là?
Comment on arrive jusque-là, quand on bascule comme ça, d'un seul coup, à l'intérieur de ce conte, dans quelque chose qui, au départ, est très, très collé à la réalité, voilà, et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on bascule, voilà, dans le monde de l'imaginaire ou de la fantaisie. Je me suis inspirée, là, pour le coup, de quand on est atteint d'insomnie, ça peut devenir extrêmement troublant, et on peut parfois être à la limite frontière de perdre pied. Et je me disais, on peut parfois être à un seuil de mal-être qui font que oui, ça peut devenir extrêmement difficile et douloureux de survivre aux insomnies qui nous atteignent dans les moments compliqués. Du coup, ce personnage, il est venu comme ça, il est venu à moi au fur et à mesure de l'écriture. Et j'ai toujours été attirée, évidemment, par l'univers de l'imaginaire. Alors, vous parliez de Macbeth, bah, évidemment.
Là, je parlais de Macbeth parce que je me dis, tiens, il va venir avec ses sorcières,
voilà.
Et tout le reste.
Et reste à la porte, les sorcières, reste à la porte. Et d'ailleurs, il y a les insomnies criminelles, mais pas que, hein. Il y a aussi d'autres esprits particuliers, parce que c'est un endroit paisible. Et puis, à un moment donné, on lui raconte qu'il y a, à l'intérieur de cet espace paisible, eh bien, il y a des forces antagonistes, mais c'est comme dans la vie. Il y a des moments où c'est paisible et des moments où c'est plus difficile. Et l'idée, c'est de réussir à se franchir un passage et de tenir comme on peut, debout et à la verticale, et de quand même continuer à avoir un esprit plein de curiosité et d'innocence. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis calée sur l'enfance et son innocence. C'est aussi ce qui fait notre richesse, c'est qu'il faut si on, au mieux qu'on peut, garder les yeux ouverts et avec un esprit quand même naïf, c'est pas négatif, hein, ce que je dis, mais vraiment être dans les choses de la vie, qui, voilà, de manière un peu spontanée, et de pas perdre nos espaces de rêverie, de création, d'imaginaire.
Oui, oui.
Et j'ajoute quelque chose, c'est aussi le lien avec la nature.
Effectivement. Alors là, je t'interromps parce que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le livre qui est édité donc à Hello Édition.
Oui.
Il y a une super photo. Mmh. On voit, alors c'est quoi comme arbre?
C'est un chêne, non?
Oui, c'est un chêne. Et là encore une fois, merci.
Et on voit c'est une enfant, on croirait presque.
Oui.
Et c'est toi.
Et c'est moi.
Oui. Mais enfin, on n'est pas obligé de savoir que c'est toi d'ailleurs. C'est une enfant, quoi.
Cette couverture a une petite histoire parce qu'effectivement, c'est moi sur la photo. Et quand je travaillais avec Hello Édition, la graphiste cherchait une couverture qui parle. Et elle me dit, mais envoyez-moi une photo. Et donc, de quelque chose qui peut vous parler. Elle me dit, mais j'ai fait un essai de couverture et en fait, c'était une évidence que c'était cette photo-là qu'il fallait.
Elle est très très belle, hein,
la couverture.
Et qui c'est qui l'a pris, cette photo?
Ça, c'est très personnel.
Ah bon, donc, d'accord. Alors, voilà. je mets la question dans le trou, enfin dans les oubliettes. Allez.
En tout cas, c'est la couverture, le lieu est. Et d'ailleurs, l'histoire se passe en Angleterre. Ah. Ça se passe dans une banlieue de Londres. Mmh. Et en tout cas, cette photo a été prise en Angleterre. Et les chênes là-bas sont des.
Un chêne. Ouais. Il est énorme, ce chêne. Et on voit les bras de la petite fille qui ne peuvent pas l'entourer tellement il est gros.
Oui.
Ouais. Et puis c'est beau, hein, c'est une forêt.
C'est une forêt.
C'est une forêt. C'est en Angleterre.
Oui, c'est une forêt pas très très loin de Londres. Mais c'est aussi ça qui m'a beaucoup inspirée dans ce conte, c'est que la nature a des choses à dire. également. Donc voilà, et c'était important.
Ah ben certainement, que le... oui, la nature a des choses à dire. Oui, oui, oui,
oui.
C'est sûr, c'est sûr.
Puis c'est vrai qu'en Angleterre, ils ont des coins de verdure, mais beaucoup plus qu'à Paris, que je veux dire. Hein. C'est,
oui,
c'est,
les c'est espaces plus... et les parcs sont beaucoup plus nombreux.
Et donc, l'héroïne, elle cherche des réponses, justement, en faisant une quête, en partant à la recherche de la nature. Elle rencontre un sage. L'héroïne, elle passe du stade de l'enfance à l'âge adulte. Hein. Bon,
c'est ça.
Et voilà.
Oui.
Et puis un jour, elle se rend compte qu'elle n'a pas oublié son ami d'enfance. Et elle fait donc une recherche. Elle rencontre un sage, alors qui pourrait s'apparenter à un maître de Kyodo, quelque part.
Il est apparenté, effectivement. Ce personnage, je l'ai. Lui aussi, il est venu à moi spontanément au gré de toutes les expériences que l'on peut faire dans une vie, les rencontres que l'on peut faire, que ce soit lorsque j'étais petite et qu'on m'apprenait déjà à regarder devant moi et à fixer l'horizon. Ben c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout le temps. Et quand je suis partie au Japon pour pratiquer j'ai pratiqué le Kyodo pendant quand même quelques années. Le Kyodo, c'est le tir à l'arc japonais. J'ai rencontré des sensei, qu'on les appelle comme ça, les maîtres. Et finalement, là aussi, il fait partie de l'histoire et il va guider aussi Caroline dans ces moments de quête ou de réflexion qu'elle peut avoir. Elle part, effectivement, au départ, ce sont deux enfants qui sont très amoureux et il y a une histoire réelle de passion. Et comment fait-on avec cette histoire-là quand les liens se défont malgré soi? C'est peut-être ça dont il est question dans ce livre également. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos souvenirs, nos liens, nos vies, nos forces antagonistes, voilà, et les rencontres aussi qui peuvent parfois sont ces rencontres-là qui peuvent paraître totalement inattendues, mais qui vont être complètement déterminantes dans notre existence et finalement vont nous accompagner pour toujours. C'est peut-être ça aussi que je voulais raconter à l'intérieur de ce tout petit conte très dense, oui, mais en tout cas essayer d'en tirer l'essentiel, se dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter si ce n'est que qu'une histoire à l'intérieur d'autres histoires.
D'accord. Est-ce que tu aurais envie d'entendre une chanson particulière?
Oh ben je vous laisse l'inspiration.
Je sais pas. Est-ce que tu as une chanteuse que tu aimes particulièrement?
Bah, j'aime bien quoi de Jane Birkin, par exemple.
Ouais. Et Baby Olone, tu connais aussi, c'est joli Baby Olone.
Ah oui, Baby Olone, oui.
Il y avait aussi la chanson du gâteau par Poudane.
Ah oui.
Quoi? Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Star, laisser ou apprendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Dites-moi, passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre.
notre amour fut resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir. Va comprendre.
Caroline, tu voulais parler d'un article d'un ami, je pense, assez cher, très cher.
Oui, alors il y a un article au sujet du ruban qui a été rédigé par Pierre Vavasseur, qu'on peut retrouver sur son site, qui s'appelle « Des minutes de lumière en plus ». C'est un site littéraire, et il y a un article autour du ruban. Et je tenais à le souligner, parce que je le remercie beaucoup pour cet article. Et je profite également à nouveau de remercier Hello Édition et Guillaume Giboulot, parce que ils font un travail formidable pour les auteurs qui ont envie de se lancer. Moi je ne cesse de les remercier, parce que ils ont vraiment été aux petits soins avec moi. Donc je voulais souligner leur présence. Voilà, je... C'était des petites...
Alors, Hello Édition, le ruban.
Oui.
Donc, c'est un très joli livre, un conte. Et c'est un livre qu'on peut lire vraiment de long en large, enfin, plusieurs fois, je veux dire. Parce que c'est comme il y a de la poésie à l'intérieur. Puis moi, je lis pas bien. Hein. Mais il y a des chapitres qui sont très poétiques. C'est dommage qu'il n'y ait pas de poète ici. Il y a un beau chapitre. Moi, j'aime bien. Tu te sens pas poète, toi, Dominique, un peu, de temps en temps
Pourquoi?
Pour lire un extrait avant que Macbeth arrive, là. Parce que vraiment, il se laisse
vivre, hein, Macbeth. Il est toujours en Écosse.
Mais oui, parce que j'ose pas commencer avec toi, parce qu'après, lui...
Alors, je suis censé lire quelque chose?
Oui, oui, oui.
Et c'est...
T'as pas envoyé un texto?
Si, il m'a dit qu'il venait à 16h15. Là.
T'as peut-être envoyé un autre message.
Non, mais je viens de regarder.
Quoi, la page 46 ? Les tempêtes, peu à peu, laissèrent place à des éclaircies. D'abord furtives, puis plus présentes. Et son cœur put enfin connaître une trêve. Rien n'était permanent, mais ces moments de vertige tentaient de s'harmoniser avec le reste du monde. Rien ne devait altérer son sentiment de conquête. Accomplir l'impossible, franchir l'au-delà, se remettre debout et fixer l'horizon. Je glisse ou je dessine la plaine endormie, aussi simple et rapide que le vent ou un battement de cœur. Une magie flotte au fond de moi, je te regarde sous ma peau d'emprunt. Écriture de nos raisons de vivre, le souvenir s'achève sous les chemins et les pages endormies. Voilà que tu me réveilles de mon sommeil de velours sous le sapin de mes rêves. Le parfum de notre romance. Et toi, si tu me disais comment tu sommeilles? Souvent je pense à toi à travers les trains qui m'emportent jusqu'à la lune. Faut-il des chariots d'argent? Combien de chemins qui ne finissent pas? Et moi, dans la partition, je m'accroche au silence, celui de l'au-delà de la trêve de mon âme, celui qui résonne au milieu des baisers aux saveurs de lavande et de romarin. Mon chagrin se résigne au silence, je me parle du dedans, ma gorge est un marécage.
Ah oui, merci. Alors, merci. Puisque je cherchais de la poésie, Jean-Marie, j'ai un poème de lui, de Francis Blanche.
Merci. Très bien.
Merci.
Chanson pour Job. Job, tes amis ont claqué la porte. Claqué la porte en s'en allant. Job, tes amis t'ont laissé seul. Seul comme avant. Et leurs mots durs se sont incrustés dans les murs blancs. Ils sont partis, le diable les emporte. Ils sont partis, les emporte le vent. Tu vois, maintenant, partout c'est le silence. Il pleut du silence, il pleure du silence. Et tu n'as pas peur de la pluie, de ses larmes? Et si tu n'as pas peur du silence de l'âme, écoute, Job, les mille voix autour des murs, autour du toit. Écoute, Job, autour de toi. L'aile du vent, l'aile du temps, c'est un fantôme de caresse. Tu les as connus ces instants pleins de soleil et de promesses. Alors, qu'importe maintenant, qu'importe si c'est la détresse qui revient sur l'aile du vent. On passe là-bas, sur la route, et chacun s'en va quelque part. Mais ta misère est de celle qu'on ignore. Plus un pas ne vient vers ton seuil. Papillon de flamme posé au plafond. Job, où est le temps qu'un sourire de femme éclairait tout dans ta maison? Job, Job, Job! Où sont les rires qui déferlaient au matin sous un toit? Rappelle-toi, rappelle-toi, car c'est le pire quand le souvenir même s'en va. Job, une main sur ton front, le vin qui riait dans ton verre, un peu de brume au bord de la rivière. Job, une chanson. Il y a du ciel compact, du ciel où l'on peut mordre dans le blanc de l'aube, le bleu du soir. Il y a de l'eau de soleil qui déborde l'espoir. Job, tu savais tout, mais tu n'as plus rien. Dieu qui t'aimait t'a rendu le mal pour le bien. Tu es seul dans tes amours mortes. Tes amis ont claqué la porte. Et puisqu'au ciel indifférent et coutumier, meurent les ans, meurent les jours, meurent les heures. Job, assieds-toi sur ton fumier et pleure. Francis Blanche.
Et Philippe, vous voulez de l'eau, non?
Non, merci, pas
pour l'instant.
Bon, si vous voulez, si.
Alors, eh bien, Macbeth est arrivé, n'est-ce pas?
Macbeth.
Alors, alias Philippe Nico. Mm. Donc, Macbeth nous vient du fond des âges, hein, de l'époque d'un certain monsieur qui s'appelait Shakespeare, n'est-ce pas?
C'est lui. Hein? C'est lui qui a écrit tout ça, oui.
Il a écrit tout ça, mais il en a écrit d'autres. Hein. Il a écrit Richard III, il a écrit Hamlet, enfin, c'est bien connu. Hein.
Songe d'une nuit d'été.
Etc. Bon, il est très connu, ce Shakespeare, mais on ne sait pas où il est né. Est-ce qu'il est bien. Est-ce que c'était pas.
Une femme, un homme, on sait pas. Plusieurs qui écrivaient le scénario.
Qui rôde autour de Shakespeare.
Des historiens.
Mais il est. Sa particularité, enfin, c'est quand même ce qu'il a écrit sur. Il a plusieurs personnages très très forts, c'est-à-dire il avait le roi Lear, il y avait Hamlet. Mmh. Tout ça, c'est un rapport avec le pouvoir, avec la royauté, enfin,
la trahison.
Toutes les dissensions qu'il y a eu, les guerres, les guerres de pouvoir qu'il y a eu en Angleterre et même au-delà de l'Angleterre. Et donc, il se fait le conteur, le témoin. Ouais. Est-ce qu'il était vraiment témoin?
Est-ce que tout ce qu'il raconte, c'est réel, ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. Moi, je suis plutôt spécialiste du théâtre. Donc,
voilà.
Je ne suis pas historien, mais est-ce que ce n'est pas romancé, parfois, ce qu'il écrit? Je ne me rends pas compte.
On ne sait pas. Mais moi, ce qui m'a... Alors, donc, vous jouez...
Moi, je joue Macbeth.
Vous jouez Macbeth au Théâtre de l'Essaillon. C'est la dernière ce soir.
Oui.
C'est un peu tard pour vous inviter, mais vous allez jouer aussi à Avignon.
À Avignon cet été, du 6 au 29 juillet, au Théâtre des Corsins, place des Corsins. C'est un beau théâtre avignonnais, donc il est très bien placé.
Dans le centre d'Avignon.
Voilà, je joue à 18h20 dans la salle 1. J'ai déjà fait Avignon l'année dernière, dans un petit théâtre qui s'appelle Le Vieux Balancier, qui est un théâtre super intimiste, et c'était très très bien. Donc le spectacle sera très rodé, on peut dire, voilà.
Oui, parce que vous l'avez commencé déjà en 2022, même avant.
Je l'ai joué en 2022, je l'ai joué à Montpellier avant de le jouer à Avignon, donc je l'ai rodé déjà. Après, cette année, j'ai réussi à le jouer à Agen, à Lodève, à Lyon... Donc, et puis à Paris, là c'est la dernière, c'est la 20e ce soir en fait. Donc c'est un spectacle qui a déjà été joué plus de 60 fois. Donc c'est quand même un spectacle qui sera...
Alors pour résumer, l'histoire de Macbeth, c'est donc l'histoire d'un... Lui, il n'était pas roi au départ.
Non, il est chevalier.
Il est chevalier.
Il est cousin du roi.
Il est cousin du
roi. Il est quand même de la famille.
Oui. Hein. C'est un peu comme les rois maudits, c'est ça. Hein. Oui. C'est l'équivalent des rois maudits... en Angleterre. Mmh. Hein. Et donc, lui, à cause de sa femme...
À cause de sa femme. Il a une prédiction.
Une prédiction de trois sorcières, comme dans votre roman. Hein.
Ah oui. Alors, il y a trois sorcières qui lui prédisent. D'abord, qu'il va être prince de Cawdor, c'est-à-dire une région du... Il est déjà prince de Glamis, mais il va devenir prince de Cawdor. Alors, bon, les sorcières lui annoncent ça, et elles lui annoncent aussi qu'il va devenir roi. Et il s'avère que... Le roi le fait prince de Cawdor. Alors ça le
galvanise.
D'un seul coup, il écrit à sa femme qui lui dit « Les sorcières m'ont dit « Je vais être prince de Cawdor ». Elles m'ont dit aussi que j'allais devenir roi. » Et là, elle, ça lui fait péter un câble. En fait, c'est elle qui l'incite à devenir roi. Et comment devenir roi?
C'est un mauvais esprit,
Elle implore les esprits du mal. Pour qu'il fasse qu'il commette le meurtre
en fait,
absolu.
La scène la plus fantastique, moi, parce que j'ai quand même vu Macbeth, hein, j'ai pas une grosse culture théâtrale, mais j'ai quand même vu Macbeth. Après, je trouve que Shakespeare, c'est long, hein, comme pièce. Hein. Bon, je l'ai vu, et la scène qui m'a le plus fascinée, c'est la scène où Macbeth enfonce un poignard. Sur Duncan, le roi,
ouais,
qui est en train de dormir.
C'est ça.
Et il y a plein de sang, enfin, etc.
Alors, je te le dis, parce que dans la pièce, parce que moi, j'en ai fait un conte.
Voilà, c'est un conte.
Je raconte l'histoire de Macbeth et en même temps, je vis des scènes dans la chronologie de la pièce. Donc, je prends tous les personnages, je fais les sorcières, je fais Lady Macbeth, je fais Macbeth, enfin, je fais tous les personnages.
C'est un seul en scène.
C'est un seul en scène, d'accord. Ouais. Musical et théâtral. Uh-huh. Et donc, la scène où Macbeth tue le roi,
ouais.
dans Shakespeare, elle n'est pas à raconter. Il monte dans la chambre, il redescend de la chambre et il a les deux poignards dans les mains.
Mais enfin, on s'imagine quand même qu'il a enfoncé le poignard.
Ah
bah oui, dans...
voilà, on s'imagine. Oui.
Voilà.
Et moi, j'ai raconté l'imaginaire.
Voilà, en fait. Voilà. Moi, ça me dit un truc. Et ce que j'adorais dans cette histoire, enfin, ce que j'adorais, non, c'est pas ça, c'est que Lady Macbeth, avec ses mains rouges de sang, et ce sang qui disparaît pas, ça me fascinait. Enfin, ça me fascinait.
Oui.
C'est extraordinaire, du sang qui ne peut pas sortir des mains.
Elle n'arrive plus à nettoyer le meurtre.
C'est très symbolique, hein.
Oui, oui, c'est
très symbolique, parce que, en fin de compte, et quelque part, on pourrait dire, c'est une hallucination, et c'est aussi le départ d'une maladie mentale, aussi, quelque part. Enfin, oui, c'est un symptôme.
Ils ont tous les deux, ça les rend malades, en fait, d'avoir commis ce meurtre, parce que Duncan représente au niveau symbolique le père. Donc pour lui, c'est son père d'armes.
C'est ça.
Et elle, il ressemble à son père, pour de vrai. Et elle le dit, s'il n'avait pas tant ressemblé à mon père, c'est moi qui l'aurais tué. Mais comme il ressemble à son père, elle ne peut pas. Donc elle demande à lui de le faire.
Elle s'en sert comme instrument, enfin,
elle le manipule pour le faire.
Oui.
Et elle a de l'ambition pour lui, elle le fait aussi par amour. C'est une grande histoire d'amour, Macbeth.
Oui, aussi.
Mais
alors, qu'est-ce qui vous a fasciné? Comment se fait-il? Parce que là, dans la pièce, j'étais avec une jeune amie, elle ne va pas souvent au théâtre, je l'avais invitée. Mais elle était médusée. Elle trouvait que ça extraordinaire.
Oui, parce
pour quelqu'un, qui ne va pas au théâtre, enfin, qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre, là, on comprend ce que c'est que le théâtre. Parce que y a une fulgurance, il y a une... vraiment, vous voulez faire du théâtre. C'est-à-dire que vous vous servez de tout pour exprimer. Alors, donc,
je me sers de tout, de tous les instruments que j'ai travaillé depuis.
La voix,
les
gestes. À un moment donné, avec un
t-shirt.
De simples gestes ou un t-shirt qui est rabattu sur le front, vous devenez Lady Macbeth, vous devenez les sorcières.
Mais oui.
Enfin, c'est assez extraordinaire. Hein, avec un.
Un tabouret,
ça devient un château.
Voilà, c'est ça.
Avec un, comment ça s'appelle là, une passoire pour les carottes que vous mettez sur votre front, ça devient
une couronne. Et puis après,
avec
ça devient un chaudron.
Qu'est-ce qu'elle devient, la serpillière?
La serpillière, c'est un fantôme, parce que dans cette pièce, il y a beaucoup de choses en fait. Donc Macbeth, il tue son meilleur ami. Parce qu'il a peur que son meilleur ami lui prenne sa place. Enfin, que son fils prenne sa place. Et donc, il voit le fantôme de son ami venir à un repas ensanglanté. Et donc, alors, je vais un peu dévoiler l'histoire, les effets de pièce. Mais pour représenter ce fantôme, j'ai pris une serpillière, toute mouillée, qui avec le bruit de l'eau qui ruisselle dans la bassine, comme du sang qui ruisselle. Et donc, voilà, il a cette apparition et ça le rend fou. Parce que d'un seul coup, il voit un fantôme. Il le voit pour de vrai. Parce que j'ai eu la chance de jouer la pièce dans son ensemble.
Dans son intégralité.
Oui, avec tous les personnages. Donc, moi, je jouais Macbeth. Donc, j'avais un copain à moi qui jouait Banco. Et il apparaissait comme ça, tout ensanglanté. Donc, j'ai encore la vision de cet acteur et de ce fantôme, en fait. Et c'est ce que vit Macbeth. Voilà. Il voit des fantômes, il entend des voix, il dort plus la nuit.
Et ces horribles sorcières.
Oui, qui le rendent fou.
Et ça, c'est la magie du théâtre, c'est-à-dire que vous arrivez à faire croire qu'ils sont là. Quoi. Je veux dire, c'est tellement. C'est rythmé. Et également, vous chantez. Et vous avez votre guitare aussi.
Le conteur est un troubadour, en fait, qui devient des sorcières, qui deviennent des conteuses. Et puis, tout ce qui devient du récit, on va dire, qui n'est pas du texte original, je l'ai mis en musique. Oui. Alors, soit en rap, soit en slam, et sur de la musique
mais
un peu
mais c'est très impressionnant. Hein, moi, j'ai trouvé que vous aviez une belle voix. Hein, peut-être un avenir dans la chanson.
Ah bah, j'en ai fait plein. Vous avez fait, avant le théâtre, je faisais ça. C'était mon métier. Bah, oui,
vous ne pourriez pas nous faire un petit live là?
Si j'avais ma guitare.
Et comment on appelle ça quand, sans guitare, ça se fait pas
A cappella.
A cappella.
When bad dreams come through, we should remember the beautiful time that life is giving us, and follow the path of words of wisdom, follow it and walk without looking back. Tomorrow.
Ah oui, et puis en plus c'est en anglais, alors si on ne comprend pas très bien l'anglais tout de suite, mais c'est
alors
bien.
J'ai fait exprès de faire des chansons folk en anglais pour donner un côté un peu anglo-saxon, écossais, et tout le récit est en français.
Voilà, mais tomorrow, la façon dont vous dites tomorrow, moi j'aime bien, c'est comme remember, et tomorrow, comme ça, ça.
Dans le texte original, il y a cette fin où il dit demain glisse à petits pas de jour en jour, comme la dernière syllabe du registre des temps, et tous nos hier n'ont fait qu'abréger le chemin de la mort poudreuse.
Ah oui.
Voilà. Non, c'est un texte de Shakespeare, demain, qui est très, très, bon, on va dire très connu dans le milieu théâtral. Et donc, moi, j'en ai fait une chanson, je l'utilise, je dis le texte au moment où il doit dire le texte, parce que je suis la trame dans la chronologie. Donc, il y a des moments qui s'insèrent comme ça du texte original, et j'ai quand même gardé ce texte-là. Où il voit des poignards, il voit un poignard volant, à un moment, il a des hallucinations, il voit un poignard volant, j'ai gardé tout le texte des poignards
volants.
Oui,
c'est extraordinaire. Et puis, il y a la forêt qui marche aussi.
Oh, ben exactement.
Ah oui.
Ils sont très forts, il est très fort, Shakespeare.
Dans le livre de Caroline Roucoule, qui était avant vous, il y a la forêt des songes.
Ouais.
Et dans Shakespeare, il y a la forêt qui marche.
Il y a la forêt qui marche, voilà. Ouais. Les sorcières lui disent, tu ne pourras pas mourir. Tu ne pourras pas mourir tant que tu ne verras pas la forêt marcher vers le château. Alors, il n'y croit pas. Il dit, c'est impossible. La forêt ne peut pas marcher. Mais Malcolm, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe des branches d'arbres. Il les met devant tous ses chevaliers. Et ils avancent comme ça. Et Macbeth voit la forêt arriver sur lui. Et là, il se dit qu'il est perdu. Là, il se dit, les sorcières m'ont menti. Encore une fois.
Oui, tout à fait, oui.
Je vais devenir roi, mais non, je vais tuer le roi pour devenir roi. C'est pas ça qu'elles lui disent. Elles lui disent pas, tu vas tuer le roi pour devenir roi. Elles lui disent, tu vas devenir roi, mais comment? Et comment tu vas être? Tu vas pas mourir tant que la forêt, mais si elle marche, tu vas peut-être mourir, en fait. Voilà. Et Shakespeare, il est fort pour ça, parce qu'il arrive à construire des scénarios invraisemblables qui deviennent vraisemblables.
Ah oui.
C'est Hitchcock, quoi.
C'est
vraiment.
C'est Hitchcock à l'avance.
C'est du suspense.
Oui, oui. D'accord.
Quand on rentre dans le. C'est pour ça que je suis fasciné par.
C'est psychodrame,
c'est ça, tout à fait.
C'est ça, oui.
C'est très psychanalytique, c'est très métaphorique, c'est fantastique. Mais Shakespeare, il est
surprenant. Et d'ailleurs, est-ce que je trouve surprenant, c'est-à-dire qu'il peint des monstres. Parce que quand même, il y a des criminels. Mais il arrive à les rendre humains. C'est ça qui est étonnant, moi, je trouve.
Bah parce qu'ils sont dans l'inculpabilité.
Ah, c'est ça. Hein.
Ils se sentent coupables.
Oui.
Donc, comme ils se sentent coupables, il y a quelque chose d'humain là-dedans.
Ouais.
Parce que lui il se sent coupable. Elle aussi, donc elle se sent tellement coupable que elle le sang ne s'efface plus et elle se suicide.
Oui.
Elle peut plus vivre avec cette culpabilité.
Ouais.
Donc il y a un côté entre guillemets happy end. Quoi. Enfin, je veux dire, le méchant est coupable.
Il meurt.
Le méchant meurt souvent dans les.
Oui, quand même.
Ouais,
quand même.
Comme dans Richard III, je crois. C'est pareil, il meurt. Ouais. Quoi.
C'est pour ça que Macbeth vous fascine.
C'est-à-dire, comme je l'ai joué, quand je jouais ce rôle-là, je me suis dit, ça, on peut jouer ce rôle-là toute sa vie.
Toute sa vie.
Bah, il y a tellement de trucs à jouer, c'est parce que c'est énorme, hein, ça dure 2h30. Oui. Il a des monologues magnifiques. Donc, quand on joue ça, on aura envie de jouer ça tout le temps. On pourrait jouer ça tout le temps.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, après.
C'est un rôle, entre guillemets, dont vous êtes amoureux. Enfin, le rôle, là. Je parle du rôle, là. Je parle pas du personnage. Du rôle. Vous êtes passionné par ce rôle.
Ben après, quand tu le joues comme ça, quand tu joues dans sa totalité, moi, j'ai vu toutes les pièces de Macbeth, quoi. Tout ce qui se joue à Paris.
Vous collectionnez toutes les représentations de Macbeth?
Tous les films.
L'opéra,
le Verdi.
Vous êtes un collectionneur de Macbeth. Ben, enfin, de représentations de Macbeth.
Après, je m'inspire de tout ce qui s'est joué.
Ah oui.
Ben oui,
vous n'avez pas peur d'être...
En fait.
Influencé par telle représentation, ça n'écorne pas votre propre inventivité.
Quand je l'ai travaillé, c'est il y a 10 ans que je l'ai travaillé, ce personnage.
D'accord.
Donc après, il y a des choses qui se sont intégrées et je les ai traduites là pour faire ce spectacle.
D'accord.
Donc c'est pour ça que j'en ai fait un conte musical.
Ah oui, et c'est bien parce que ça peut donner envie aux gens qui se disent bon, ben Shakespeare c'est un peu ardu, ça peut leur donner envie de. C'est une porte d'accès à Shakespeare.
Et aux jeunes aussi.
Aux jeunes, voilà.
Parce que là, j'ai quand même des scolaires qui viennent.
Oui.
Et donc, comme il y a beaucoup de musique, ça les rend attentifs.
Ah oui,
ils
oui.
Ils deviennent attentifs au récit.
C'est un côté baroque, rock, fantastique aussi. C'est bien pour les jeunes, hein, pour un jeune public. On va écouter la bande-annonce. Ça a été pas mal, la bande-annonce. Ah.
Vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Il était une fois Macbeth, chef de l'armée écossaise, cousin du roi. Il était une fois. Et salut Macbeth. Et salut à toi qui bientôt sera. N'irons pas plus loin dans cette affaire. Qui de vous avait cela? À quelle bête apparteniez-vous donc lorsque vous vous êtes ouvert à moi de cette entreprise? Macbeth a tué le sommeil. Mes mains ont la couleur des vôtres. Il y aura une grande fête ce soir au château. Je jure que je ne veux plus être le portier du diable. Tu vas tuer le roi. Lux brings Lux hit happy pride. We are God and angel of the sea. Codor, et le poison vient couler dans ses veines. Toi mon roi, moi ta reine.
Ça a de la musique côté électro avec du récit.
Ah oui, ouais, c'est super. Ah, c'est vraiment écoute, super. Ouais.
Et je m'en rappelais plus que c'était aussi sonore comme ça le teaser.
Ouais. Eh ben merci Philippe Nico.
Ah ben c'est moi,
je vais libérer Macbeth qui part pour. L'ultime représentation au théâtre de l'Essaillon, hein, ce soir à
19h15. Alors vous avez encore le temps de venir. Voilà. Sinon, je serai au Festival d'Avignon.
Au théâtre des Corsins à 18h20, du 6 au 29 juillet.
Ah oui, vraiment, c'est un spectacle qui impressionne, hein, quand on n'en sort pas indemne. Hein,
super.
Hein,
voilà. Travail. C'est fait pour.
C'est fait pour.
Très bien, bravo.
D'accord. Merci beaucoup à vous.
Et merci. Hein. Merci Philippe.
Merci.
Alors, cher Dominique. Oui.
Domicile adoré.
Domile adoré.
Domile adoré. Oui, oui,
ah oui. Domile adoré. Donc, tu viens de sortir un disque.
Oui, exact.
Il s'appelle Un pas de plus.
Oui.
Voilà.
Parce que c'est mon deuxième.
C'est ton deuxième. Ah, d'accord. C'est ton deuxième.
Une chanson, peut-être.
Alors, tout à l'heure, on a écouté Des yeux de diamant.
Oui, de Tes yeux des diamants, oui.
Et puis, on va écouter le morceau 3, parce que tu m'avais parlé du morceau 3.
Oui, c'est ça, oui.
Et quand même, en préliminaire, tu vas nous dire pourquoi, tout à coup, tu décides de faire un deuxième disque. Alors, j'imagine que tu as mûri ce projet.
Oui, en fait, l'idée m'est venue d'un ami avec qui m'a servi de coach pendant un moment. Et il m'a dit qu'en fait, ce serait quand même bien de faire un disque pour réunir toutes les forces que j'avais qui étaient en moi. Et en effet, je trouve qu'il a eu raison, parce que ça m'a permis de travailler avec pas mal de monde, quoi.
Oui, vous êtes combien pour faire ce disque ?
On est 8.
Oui, c'est quand même pas mal, hein. Ouais.
On n'est pas 8 sur tous les morceaux, mais on est 8.
C'est 9 collectives, hein. Mais c'est toi quand même qui a composé les chansons, qui chante.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Sauf il y a une chanson qui est dans la musique de mon frère.
Ah bah oui, comment il s'appelle, Jean-Paul.
Jean-Paul,
oui. Jean-Paul, oui. Des talents, Jean-Paul, hein. J'aime bien Jean-Paul. j'ai pas vu, mais j'ai écouté sa musique.
Ah oui, oui.
Et Jean-Marie,
oui,
aime beaucoup aussi.
D'accord.
Ouais. Donc, et toi, tu joues quoi comme, dans le disque, comme instrument?
Alors, dans le disque, je joue de la batterie et je chante. Je joue de la batterie et je chante.
Et tu chantes, mmh. voilà.
Parce que je joue de la guitare évidemment pour m'accompagner quand je chante, mais là je préférais prendre des musiciens qui étaient plus chevronnés que moi.
D'accord. Et l'inspiration alors, parce qu'on a écouté Les yeux de diamant, c'est assez léger, hein, ça veut être très léger, festif, un peu pour.
Oui, c'est ça, oui.
Ça veut être. Quand je dis léger, c'est pas une critique, je veux dire que c'est. C'est pour la fête, quoi. C'est
oui,
pour c'est la joie, enfin un peu
voilà,
de
ça,
la gaieté.
Oui,
hein,
oui c'est ça, exactement. Oui.
Ouais, voilà. Et les autres morceaux, ils sont aussi dans cette tonalité?
Non, pas tous, je dois dire.
Non?
Non, pas vraiment. C'est comme s'il y en a comme d'autres qui ont cette empreinte, mais ils ne sont pas franchement tous comme ça. Il y en a un qui est, disons, un peu moqueur grivois, quoi.
Ah, la grivoiserie, j'adore, ouais.
Et puis,
c'est un grivois. Alors là, c'est comique quand même, la grivoiserie, non? Enfin, je sais pas, moi. Non?
Ouais.
Un peu comique.
Oui, oui, forcément un peu humoristique.
Ouais. Humoristique, ouais. Et romantique? Un peu de romantisme? Non, pas de romantisme?
Oui, on peut y mettre ce qu'on veut.
Non, bon. Non, je ne sais pas, je n'ai pas écouté. Il vient de sortir.
Voilà, c'est ça qu'il faut dire.
Le disque vient de sortir.
Ce qui est étonnant, c'est que tu m'invites sans l'avoir écouté.
Mais ce n'est pas de ma faute, je ne l'avais pas. Comment tu veux que je l'écoute?
Mais bon, je ne l'ai pas.
Eh bien, alors on l'écoute maintenant.
On va écouter le morceau 3. Le morceau 3.
Ma voix est éternelle. la 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 la.
Voilà, c'était Mon nom est le vent. J'espère que ça...
Ah ben j'aime bien.
Ça percute chez les
gens. Oui, 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 oui. Ça,
et qui
ça
est l'ami à demi qu'on entend derrière?
Hein?
Qui est l'ami à demi qu'on entend derrière? Il y a des voix.
Oui, oui. J'ai travaillé avec deux filles qui sont sur trois des cinq morceaux de ce CD, avec Elke Staliki, qui avait... mais que je connais pratiquement depuis 20 ans.
Qui travaillait à la SACEM, non
c'est voilà, ça, c'est ça.
C'est ça ouais.
Et Emmanuel Loisel, mm-hmm. aussi, que j'ai connu par Elke, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi.
Elle est belle, hein, la pochette, moi j'aime bien. Hein. Donc, on croirait une vedette de cinéma.
Oh.
Ben oui, ah oui, avec le chapeau, ah ben ça, le chapeau. La petite moustache... Ah ouais, tu devrais faire des films, hein. Enfin, je veux dire,
un clip, des clips.
Ah non, t'es séduisant là, hein, franchement. Bon. Ah oui, oui, oui. Mais ça fait quand même très... on croirait que tu sors d'un film, mais des années, je sais pas, pas des années-lumière, mais des...
Bagnole.
Ouais, ça fait très... c'est un style, quoi.
Oui, ben, j'ai un physique un peu latin, quoi, on va dire. Donc, on pourra me prendre pour un mafieux.
Un mafieux, ouais, c'est ça. C'est quand même pas le parrain, quand même, si. Tu es un personnage
de après, c'est à vous de juger. Moi, je fais que mettre un chapeau, puis bon.
Ah, c'est marrant. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la pochette. Hein. Vraiment, très, très jolie. Et puis, la maquette, hein, je ne sais pas de qui c'est, la maquette.
La maquette, tu veux dire
Le dessin de
l'ouverture, c'est de Stéphanie Petit, qui est elle-même auteur-compositeur, qui m'a proposé de faire le graphisme. Et bon, j'étais très content.
Très, très joli, hein, vraiment.
Assez rapidement.
Non, mais je pourrais d'ailleurs l'annoncer sur mon site. Je l'annoncerai.
Et sûr que tu es marqué de façon dont les gens qui ont participé.
Oui. Donc, on peut le trouver. Tu peux donner ton adresse où on peut trouver le disque Domi. Alors Domi l'adoré, un pas de plus.
Oui, ça, c'est le nom de l'album. Alors, je l'ai mis en vente sur Bandcamp.
Mmh.
C'est ça, Domi l'adoré, un pas de plus. Ou sinon, donc j'ai fait un financement participatif pour ça. J'ai commencé donc à en vendre pas mal. Ça a bien marché. Sinon, on peut m'écrire à Dominique. Alors, Dominique s'écrit dominic@yahoo.fr.
D'accord, très bien. Bah, c'est bien, tout le monde a ses renseignements. Alors... Anne, elle va faire sa chronique. Et si on a un peu de temps, ça te dérangerait si on passait Montauban? Moi, j'adore Montauban.
Non, mais... non.
Alors, on va passer Anne, et puis à la fin, on passera Montauban.
Hein, mais Montauban n'est pas sur ce disque, si?
Non, mais il est sur YouTube. Voilà.
Oui, alors, nous avons vu au théâtre Le Pic... une pièce sympathique de Stéphane Landowski qui s'appelle Le Testament Médicis, qui parle de quoi? C'est un gardien du Louvre qui garde naturellement Mona Lisa, et il raconte à son fils Laurent, il raconte à son fils l'histoire de la véritable, pour lui, l'histoire de Mona Lisa et de Léonard de Vinci. Donc, ça donne droit à... Il y a des costumes, il y a des vidéos, non pas vraiment des vidéos, mais je veux dire des éclairages qui sont intéressants dans les décors, les costumes. Et le texte est sympa. C'est une histoire, je dirais, tout public. Hein, tout le monde peut aller voir cette pièce, elle est sympathique. Ça raconte aussi l'histoire d'amour entre Mona Lisa et peut-être Laurent. Enfin bon. Donc c'est au Théâtre Le Pic. On a vu aussi une pièce de boulevard célèbre qui s'était donnée il y a quelques années, mais je pense que je me demande si c'est pas Roland Giraud qui l'avait créé, ce qui s'appelle Sans Rancune au Théâtre Héberto. C'est une pièce de Ron Clack et Sam Bobick. Et l'adaptation est de Jean Poiré. Donc c'est déjà quelque chose de qualité. Et puis là aussi, je dirais pas que j'ai éclaté de rire, mais bon, j'ai souri. On sourit quand même pas mal. C'est aussi un peu farfelu. Un homme, le jour où il marie sa fille, sa femme lui annonce qu'elle le quitte pour rejoindre son jeune amant. Donc ça, il l'accepte pas trop. Donc il essaie par tous les moyens de la retenir, de faire en sorte que l'amant soit, on va dire, dézingué, si on peut dire. Mais c'est aussi une histoire assez amusante, peut-être un peu longue. Il y avait quand même quelques longueurs.
Oui, c'était un peu long.
Un petit peu des longueurs. Mais je veux dire, on sourit, quoi. On passe quand même un bon moment. C'était avec Julia Caffaro, Thierry Beccaro, et puis d'autres comédiens. Mais c'était aussi une bonne soirée. Et donc, comme on va partir à Avignon, je rappelle les trois spectacles dont tu as reçu dont tu as invité les comédiens.
Oui.
Bernard Dimé, père et fille.
Ouais.
Qui se déroulera à l'atelier Florentin à 13h30. On a reçu les Beatles. Donc le spectacle s'appelle Lennon et McCartney. Et ça se donnera à l'Atypique Théâtre à 18h. Et on avait reçu Céline Samy pour Monsieur Proust, qui se déroulera au Petit Louvre, salle Van Gogh, à 10h du
matin. C'est la gouvernante de Proust, en fait.
Céleste Abbaré.
Voilà.
Oui, c'était très intéressant et un seul en scène aussi passionnant. Et puis donc, là, j'ai fait ma petite liste pour Avignon, mais ça, je la mettrai sur mon blog. Eh bien, écoutez.
Alors, on va essayer, si c'est possible, Montauban, si c'est possible.
Eh bien, on part pour Montauban.
Moi, j'aime bien les arbres qui chantent, là. Il y a une question de belles arbres qui chantent dans Montauban.
Ah oui, oui, oui. Les petits cris à tue-tête.
Ne me demandez pas comment j'ai fait pour être là où j'étais. J'étais comme qui irait parachuté. J'ai oublié et tout ce que je sais, c'est que les arbres chantaient à tue-tête. Les bras sentaient bon, les croissants. C'était un lendemain de fête, dimanche matin à Montauban. Les cimes balançaient d'un petit air très futé. Et les passants que je rencontrais n'avaient pas l'air très étonnés. Les arbres chantent à tue-tête, les passants de bon, les croissants. Ça soit à lendemain de fête, dimanche matin à Montauban. Stand passant devant le grand café, que je l'ai rencontré. Les genoux se sont mis à voler et à danser, je l'ai invité. C'était pas le genre à faire la tête, c'était pas le genre contrariant. Tous les deux on s'est fait une fête, dimanche matin à Montauban. Yeah.
viendrai, l'homme particulier. Et même si on n'a pas eu beaucoup de bébés, jamais je n'oublierai. Les arbres chantent à tête, les pins sont très bons, les croissants, c'est le talent de ma vie. Tu manges pas ta amandoban, tu manges pas ta amandoban.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dans un instant sur l'antenne de Radio Libertaire, ça va être Bulle Noire, et si je vous cite quelques titres de films, La Revanche de Robin des Bois, Le Défi de Robin des Bois, Frankenstein s'est échappé, La Revanche de Frankenstein, L'Empreinte de Frankenstein, Le Cauchemar de Dracula, Une Messe pour Dracula, Les Cicatrices de Dracula, vous en déducez, ben c'est Robert qui vous dira, hein, on va parler de la mer.
T'as bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
A bien capté Bulle Noire sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté Bulle Noire sur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.